Midi 31 sur France Culture. Tout de suite, le journal Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, est à Ankara. Les États-Unis et la Turquie déclarent vouloir ne plus agir chacun de leur côté en Syrie. Rapprochement donc entre les deux pays, on verra cela avec Anne Handlauer tout à l'heure. Aux États-Unis, certains organes de presse affirment que le jeune homme qui a tué 17 personnes hier à Parkland, en Floride, pourrait avoir été un militant d'extrême droite au sein d'un groupuscule suprémaciste, suivi de cette enquête avec Nadine Epstein. Édouard Philippe consultera la semaine prochaine les acteurs concernés par la réforme du système ferroviaire français. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, annonce une manifestation nationale des cheminots. Ce sera pour le 22 mars. Nous l'entendrons. Les négociations sur l'assurance chômage n'ont toujours pas abouti. Les organisations syndicales exhortent maintenant le gouvernement à préciser sa menace de bonus-malus sur les contrats courts, commentaire d'Annabelle Grelier. Une proposition de loi votée hier soir à l'Assemblée qui va autoriser le placement en rétention des demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs en Europe, les fameux Dublinés, une mesure nécessaire selon le gouvernement pour augmenter les reconduites à la frontière, dossier suivi par Camille Magnard. Et puis on parlera de cette étude parue ce matin dans le British Medical Journal. Manger trop de plats industriels augmente le risque de cancer, compte rendu de Véronique Rebérotte. L'invité de la séquence interview, Denis Oliven, auteur de Mortelle Transparence, avec Mathias Chiche-Fortiche aux éditions Albin Michel. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jasbert.
Aujourd'hui, on vous parle d'un inédit publié 35 ans après la mort du philosophe Les aveux de la chair de Michel Foucault, quatrième et dernier tome de son histoire de la sexualité, le sexe comme le révélateur de l'âme. On en parle à partir de 12h55 avec le philosophe Frédéric Gros, notre invité à l'origine de cette publication.
Washington et Ankara donc tentent un rapprochement sur la Syrie après plusieurs semaines de relations difficiles et parfois conflictuelles. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, affirme en effet ce matin que les États-Unis et la Turquie ne vont plus désormais agir chacun de leur côté en Syrie et qu'ils veulent aller de l'avant ensemble pour surmonter la crise actuelle. Les deux pays qui ont mis en place un mécanisme commun qui va s'atteler donc à résoudre en priorité le sort de la ville de Minbej où se trouvent des militaires américains mais où Ankara a menacé d'étendre son offensive contre une milice kurde alliée de Washington. On est en ligne avec Anne Handlauer. Bonjour.
Bonjour.
Les deux ministres donc ont donné une conférence de presse commune tout à l'heure à Ankara. Quelles sont finalement les décisions concrètes qui ont été annoncées ce matin ?
Alors, la visite à Ankara de Rex Tillerson aura permis d'acter la création de groupes de travail turco-américains sur les dossiers qui fâchent. Un groupe sur les YPG, cette milice kurde syrienne que l'armée turque combat, mais que Washington soutient et arme pour lutter contre Daesh. Un autre groupe sur le prédicateur turc Fethullah Gulen, installé en Pennsylvanie, considéré par Ankara comme le leader d'un réseau putschiste, mais que les États-Unis rechignent à extrader. Les deux ministres des Affaires étrangères n'ont pas détaillé tous les sujets qui seront mis sur la table, ni le nombre de groupes envisagés, mais on sait qu'ils seront composés de représentants et d'experts des deux pays, et que le premier d'entre eux se mettra au travail courant mars. La Turquie a toutefois fait savoir qu'il n'y aurait aucune avancée sur aucun sujet de discorde tant que la question de Minbej ne serait pas réglée. En clair, tant que les forces kurdes syriennes n'auront pas évacué cette ville, désignée comme la prochaine cible de l'offensive turque, malgré la présence sur place des militaires américains.
La Turquie et les États-Unis qui conviennent donc de s'opposer à ce qu'ils appellent toute tentative de créer des faits accomplis ou des changements démographiques en Syrie, ça fait allusion apparemment à l'expansion d'une milice kurde dans le nord de ce pays. Et sur le fond, est-ce qu'on peut parler aussi, Anne, d'un rapprochement sur l'après-guerre en Syrie entre Ankara et Washington dans le futur processus politique qui pourrait se mettre en place ?
Alors le sujet en tout cas a été évoqué plusieurs fois lors de la conférence de presse de Rex Tillerson et Nevi Çavuşoğlu. Le ministre turc et son homologue américain ont réaffirmé leur soutien au processus de Genève, appuyé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et leur engagement à trouver ensemble une solution politique à ce conflit de presque 7 ans. Les deux pays ont notamment convenu de travailler de façon coordonnée sur l'avenir des zones libérées de Daesh, dont certaines sont actuellement contrôlées par la milice kurde YPG dans le nord de la Syrie. Les chefs de la diplomatie ont fait allusion à des négociations sur la question de savoir qui contrôlera et qui assurera la sécurité de telle ou telle région dans la Syrie de l'après-guerre, étant entendu aux yeux d'Ankara que cette milice kurde ne peut avoir aucun rôle à jouer dans ce processus. Or, les États-Unis ont laissé entendre qu'ils souhaitaient pérenniser cette force kurde et leur propre présence militaire en Syrie. Le sort de Mindej sera donc un test crucial pour l'avenir des relations turco-américaines.
Anne Anlauer, merci beaucoup en direct d'Istanbul. Il y a plusieurs milliers de personnes qui s'étaient rassemblées hier soir à Parkland en Floride pour une veillée en hommage aux victimes du jeune homme de 19 ans qui a tué 17 personnes, en a blessé 15 autres. C'était hier donc dans un lycée de cette ville de la banlieue de Miami. Plusieurs orateurs ont demandé un renforcement des mesures de contrôle des armes. Le tireur présumé a utilisé pour le massacre un fusil d'assaut semi-automatique qui a été acheté légalement. Après la tuerie, il a passé plus d'une heure à flâner dans un magasin Walmart et aussi dans deux fast-food avant donc d'être arrêté. Le président américain a mis l'accent sur le renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires, sur la santé mentale aussi, mais n'a pas du tout évoquer le débat sur le droit au port d'armes. Et puis il y a certains organes de presse ce matin qui affirment que le tueur pourrait avoir été en relation, en tout cas avoir été peut-être même un militant d'extrême droite au sein d'un groupuscule suprémaciste, Nadine Epstein.
Oui, et selon les premiers éléments de l'enquête et après avoir interrogé 2000 personnes, plusieurs informations montrent que le tueur préparait son acte depuis des mois. Son arme à feu semi-automatique a été achetée légalement dans l'état de Floride il y a un peu moins d'un an, et Nicolas Cruz était également équipé d'un masque à gaz, de grenades fumigènes et de plusieurs chargeurs de munitions. Selon une source policière reprise par la presse américaine, en février 2016, une publication sur Instagram sous le nom de Nicolas Cruz montrait l'adolescent tenant une arme. Parallèlement, vous l'avez dit, un responsable d'un groupe identitaire baptisé Republic of Florida, le chef de cette milice nationaliste blanche, a déclaré que Cruz était membre de son groupe et qu'il avait participé à des exercices paramilitaires. Ce groupe, la République de Floride, qui veut que la Floride devienne un ethno-État blanc, organise des manifestations spontanées, mais assure que Cruz avait, je cite, « agi en son propre nom et qu'il était seul responsable de ce qu'il venait de faire ». Autre incident, il y a 6 mois, dans une vidéo YouTube datée du 24 septembre, un Nicolas Cruz postait « Je vais être un tireur d'école professionnel ». Le FBI vérifie si cette personne est la même que le tueur de Floride, tout en reconnaissant qu'en 2015 et en 2016, Cruz avait posté des photos de lui-même sur Instagram montrant un pistolet entre son visage et la caméra.
Merci Nadine Epstein. 12h38, Édouard Philippe va consulter la semaine prochaine les acteurs concernés par cette réforme du système ferroviaire français dont on parlait hier. Les réactions syndicales sont toujours très hostiles après la remise du rapport Spinetta qui propose en particulier la transformation de la SNCF en société anonyme et la fin du statut de cheminot, en tout cas à l'embauche. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, annonçait ce matin une manifestation nationale des cheminots pour le 22 mars. Il était l'invité de France Inter.
C'est un rapport qui n'est pas surprenant venant d'une commande du gouvernement qui veut casser la SNCF et le service public, tous les services publics. Je vous renvoie aux déclarations sur les fonctionnaires il y a quelques jours.
Donc c'est pas réformé, c'est cassé.
Casser une entreprise publique au service du public, qui devrait être au service public. Et ce que propose ce rapport, c'est d'accentuer cette casse, parce que faudra qu'on m'explique comment, en quoi, et je défie quiconque de me le prouver, en quoi le statut des cheminots est la cause des problèmes et des incidents que rencontrent bon nombre aujourd'hui de voyageurs. Attaquons-nous au fond des problèmes de la SNCF et non pas à cette question de statut.
Voilà, c'était notre invité Denis Oliven qui disait que notre maison était très sympa, ce qui est le cas effectivement.
Et utile.
Et utile.
C'est sympa mais utile.
Je vous donne la parole dans un petit instant, Denis Oliven, pour ce sujet SNCF. A signalé encore quelques réactions, celle du secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, qui estime que le gouvernement a besoin de casser le statut des cheminots pour faire éclater la SNCF et parvenir à une privatisation généralisée du système ferroviaire. Ce qui est en cause, dit-il, ce n'est pas le statut des cheminots, ce qui est surtout visé, c'est l'ouverture à la concurrence et la privatisation. Donc de la SNCF. Le maire de Nice, le maire LR de Nice, Christian Estrosi, affirme de son côté son opposition à la fermeture des petites lignes ferroviaires, tout en partageant globalement le constat fait par le rapport Spinetta, qui préconise donc de très profondes réformes, on vient de le voir. On passe aux négociations sur l'assurance chômage, qui n'ont donc toujours pas abouti. Il y aura encore une réunion jeudi prochain. Les organisations syndicales s'inquiètent, elles exhortent, en tout cas le gouvernement a précisé maintenant sa menace sur ce fameux bonus-malus concernant les contrats courts. La réunion d'hier était particulièrement consternante, affirme la négociatrice de la CFDT à l'issue de la rencontre. En fait, le MEDEF semble ne pas vouloir du tout céder sur ce point. Il pourrait finalement préférer laisser le gouvernement agir sans être d'accord avec la proposition du bonus-malus pour les contrats courts. Tout se passe comme si la vision même du travail et donc de l'indemnisation du chômage était fondamentalement la raison de cet échec des négociations, Annabelle Gruy.
Il est certain que pour lutter ensemble contre la précarité de l'emploi, il faut déjà en partager les inquiétudes. Les chiffres de la DARES montrent que le nombre de contrats courts explose. L'UNEDIC assure que cela plombe ses comptes. Les syndicats dénoncent la fragilité que cela induit dans la vie des salariés. Mais qu'en pense vraiment le patronat? Comment compte-t-il lutter contre ce phénomène? Quels moyens pense-t-il mettre en œuvre? S'il refuse catégoriquement la sanction financière, qu'il juge cette mesure inefficace, l'inanité d'une incitation financière, comme dénonciait hier le négociateur du MEDEF, que propose-t-il alors? Il a déjà fallu 6 ou 7 séances de négociation pour qu'il admette que cela concernait toutes les branches professionnelles et rien n'a vraiment convaincu les syndicats sur sa réelle volonté de prendre le problème à bras-le-corps. Le problème se pose également sur la question de l'indemnisation des démissionnaires, l'extension au régime pour les indépendants. Et si l'on regarde un peu plus loin, également du côté de la négociation sur la formation professionnelle qui se déroule au même moment, avec parfois même les mêmes négociateurs, on sent qu'il y a un véritable flou sur la prise en compte de la nature du travail. Quel démissionnaire, par exemple, mérite d'être indemnisé? La négociation paritaire répond celui qui a un projet professionnel solide et sérieux. Mais alors, un salarié doit-il être démissionnaire pour faire une reconversion? N'était-ce pas jusque-là le rôle des dispositifs de la formation professionnelle? Bref, de nombreuses questions se posent et les partenaires sociaux ont du mal à trouver des réponses et encore plus le patronat qui ne veut pas que ça lui coûte plus de charges sociales qu'il n'en paie déjà. Alors sans aller jusqu'à rêver d'une vision commune, on voit bien que ce véritable casse-tête va avoir du mal à se résoudre par le simple dialogue social.
Merci beaucoup Annabelle Grolier. Donc nous sommes en compagnie aujourd'hui de Denis Oliven pour cette édition auteur de Mortelle Transparence chez Albin Michel. Bonjour.
Bonjour.
Directeur donc de la branche média du groupe Lagardère. Eh ben, vous êtes donc un patron. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes, par rapport à la notion même de travail, dans un moment de transition, d'évolution? Qu'est-ce que le gouvernement a comme vision de cet avenir du travail?
C'est moins le patron qui a envie de vous répondre que l'ancien conseiller dans l'équipe sociale de Pierre Bérégovoy, où je m'occupais notamment de travail et d'emploi. On est en effet à un moment de transformation que d'autres ont connu avant nous. Je pense aux pays scandinaves, je pense à l'Allemagne. Il faut qu'on arrive à trouver de nouvelles façons de nous organiser, notamment le dialogue social, pour maintenir un cap qui n'est pas facile, qui est de rendre compatible progrès économique et justice sociale pour aller vite. Donc ça, c'est, je pense que c'est ça la ligne qui anime aujourd'hui l'action gouvernementale dans la tradition de Mendès, de Rocard, de Delors. Oui, simplement, alors, c'est une grosse...
Est-ce que vous mettez Macron, là, au bout de cette tradition?
Bah, clairement, il est... En tout cas, on voit qu'il essaye de refuser, de récuser d'une part, la crispation identitaire, le fait que la réponse identitaire soit la réponse à toutes nos questions, qui est la tentation sans doute d'une partie de la droite et de l'extrême droite, et d'autre part, la tentation d'une autre partie de la gauche, qui est de se crisper sur des institutions et des façons de s'organiser traditionnelles, au risque d'asphyxier notre modèle social, faute de le renouveler. Donc, il cherche une voie moyenne.
Voilà, est-ce qu'elle existe, cette voie moyenne? C'est ça la question.
Cette voie moyenne suppose qu'une transformation en profondeur de notre façon de penser le social. On avait un modèle, et ça serait trop long, il faudrait qu'on en parle une heure, mais on avait un modèle, disons, étatique, dans lequel il n'y avait pas de dialogue social. Le dialogue social était complètement subordonné. Toutes nos institutions empêchent le dialogue social, en vérité, quoi qu'on se... On se gargarise de ce mot. Donc si on veut vraiment inventer un modèle nouveau, un peu comme les démocraties sociales d'Europe du Nord, il va falloir qu'on repense brique par brique notre façon de travailler et notamment qu'on donne aux partenaires sociaux une autorité qu'aujourd'hui dont l'État aujourd'hui a le monopole. Et on le voit sur cette discussion. Il y a un clash entre les partenaires sociaux. Pourquoi est-ce qu'il y a un clash? Parce qu'ils savent ou ils pensent que c'est l'État qui va intervenir. Et si c'est eux qui avaient entre eux la solution, s'ils étaient tenus de trouver un compromis, je pense qu'on y arriverait davantage.
Denis Oliven, merci. On vous retrouve donc tout à l'heure pour parler des questions que pose la transparence dans nos sociétés. On évoque cette proposition de loi votée hier soir par l'Assemblée qui va donc réautoriser le placement en rétention des demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs en Europe, ce qu'on appelle les fameux Dublinés, mesures nécessaires pour le gouvernement, pour augmenter les reconduites à la frontière. Ce matin, il faut signaler que les sénateurs socialistes annoncent vouloir déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel sur ce sujet. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Donc le gouvernement avait besoin, dit-il, de cette loi en raison de la décision de la Cour de cassation qui, elle, avait jugé illégale cette rétention de migrants dublinés.
Oui, en fait, il s'agissait avant tout pour Gérard Collomb et le gouvernement de combler ce vide juridique ouvert en septembre par la Cour de cassation, de retrouver des coudées franches pour multiplier les procédures d'enfermement, car le ministre de l'Intérieur l'a clairement dit, sans placement en rétention, il ne peut y avoir d'efficacité dans notre politique d'éloignement. Le but, c'est donc bien de pouvoir expulser plus de dublinés vers le premier pays de l'Union européenne par lequel ils sont passés, celui où, en vertu de cette procédure de Dublin, ils ont dû faire enregistrer leurs empreintes et déposer leur demande d'asile, même s'ils voulaient en fait rejoindre un autre pays. Le souci, c'est que ces pays d'entrée dans l'UE, principalement l'Italie et la Grèce, ne se pressent pas vraiment pour reprendre ces dublinés. Les démarches entreprises par la France échouent bien souvent, et au bout de 6 mois d'attente, les migrants sont autorisés à déposer une nouvelle demande d'asile en France cette fois. Dans l'intervalle, donc, la loi votée hier va permettre de placer en rétention des centaines de personnes qui, au regard du droit européen, ne sont pas en situation irrégulière. Ils seront enfermés dans ces centres de rétention administratifs, déjà souvent pleins et vétustes, des lieux où les violations du droit sont légion, comme d'ailleurs les actes d'automutilation pratiqués par les personnes retenues en grande souffrance. Cette rétention administrative, elle ne peut actuellement durer plus de 45 jours, mais le gouvernement veut passer ce délai à 135 jours dans la loi Asile et Immigration qui va être débattue au Parlement à partir du mois d'avril. Et si l'on regarde les débats qui ont déjà été créés au sein de la majorité LREM et Modem par le vote d'hier sur la rétention des Dublinés, on se dit qu'il y a encore des possibilités que la politique d'enfermement et d'éloignement chère à Gérard Collomb continue de faire tanguer la maison Macron.
Camille Magnard, le Premier ministre s'exprimait ce matin devant les membres de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, IHEDN, et il révèle que le témoignage de l'officier historien Marc Bloch sur la défaite française en 1940, l'étrange défaite, accompagnait ses pas depuis son service militaire en 1994. Ce livre m'a beaucoup impressionné, dit-il, parce que il est pour moi une forme de cauchemar. Il montre que les Français en 1940 ont pu vivre alors même qu'ils pensaient que c'était impossible, inenvisageable, l'effondrement complet de leur pays. Fin de citation. On termine la partie journal de cette édition avec une étude qui est publiée ce matin par le British Medical Journal et qui nous apprend, peut-être on le savait déjà, mais enfin c'est en tout cas plus confirmé scientifiquement, que manger trop de plats industriels augmente bien le risque de cancer, hypothèse émise par une étude française menée par l'INSERM, l'INRA et aussi l'Université de Paris. En cause donc surtout spécifiquement les aliments qui sont dits ultra transformés. Quels sont ces aliments qui sont particulièrement visés, Véronique Robérot?
Oui, ces aliments industriels ultra transformés, ce sont bien les plats tout prêts, bien sûr, les surgelés, les soupes déshydratées, les barres chocolatées, les boissons sucrées aromatisées. Tous ces plats-boissons sont tout particulièrement remplis de conservateurs, de colorants, d'émulsifiants, d'additifs alimentaires, de rehausseurs de goût, d'agents blanchissants. Il suffit de regarder d'ailleurs les étiquettes, beaucoup de lettres suivies de chiffres, ça ne dit rien de bon. En quoi sont-ils en tout cas différents d'un plat transformé? Exemple, une conserve de légumes avec un simple apport de sel est un plat transformé. Une poêlée de légumes toute faite avec des ressorts de goût, des agents texturants, des colorants est un plat ultra transformé. Leur transformation industrielle est supérieure, on va dire, à celle d'un plat transformé. Chercher les fibres, chercher les vitamines, les micronutriments dans un tel plat revient à chercher une épingle dans une botte de foin. Cette nourriture ultra transformée envahit les rayons des supermarchés. Par conséquent, les assiettes des Français, entre 25 et 50% de notre alimentation totale. L'étude réalisée donc porte sur plus de 100 000 personnes. Elle suggère donc une augmentation de la consommation de 10% de ces AUT, aliments ultra transformés, est associée à une hausse de 12% du risque global de cancer. Jusque-là, bien des travaux avaient suggéré que de tels plats ultra transformés contribuent à augmenter les troubles d'hypertension, d'obésité, les troubles cardio-métaboliques. Cette vaste étude épidémiologique est bien établie, cette fois le lien entre ces aliments et un sur-risque de cancer, et notamment le cancer du sein.
Voilà, merci beaucoup Véronique Rabérot, bon appétit à tous. Vous écoutez un journal fabriqué à l'ancienne. On retrouve notre invité, Denis Oliven, bonjour.
Bonjour.
Auteur avec Mathias Chiche-Portiche donc de ce livre qui s'appelle « Mortelle transparence », publié chez Albin Michel. En conclusion de livre, j'extrais cette phrase « Un spectre hante nos démocraties. Le mariage d'une idéologie qui impose de tout dire et d'une technologie qui permet de tout voir. » Alors là, vous posez effectivement, Denis Oliven, disons, les doubles conditions de possibilité de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire peut-être quelque chose de très grave pour nos sociétés, à la fois une idéologie et une technologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette tenaille qui est en train de se mettre en place?
Oui, en effet. Enfin, je voudrais tout d'abord dire que ça n'est pas un livre hostile au progrès technique et au bienfait du numérique. Il ne s'agit pas de manière réactionnaire d'imaginer un retour en arrière ou simplement de critiquer l'évolution technologique parce qu'elle apporte de nombreux bienfaits. Mais c'est un peu comme l'écologie, c'est un peu comme la conscience qu'on a pu prendre à un certain moment du fait que bien sûr nous étions favorables aux énergies, à l'électricité, au charbon et que sais-je, mais que ces énergies produisaient des effets négatifs sur l'environnement.
Alors quels sont là les effets négatifs précisément?
C'est le point clé, c'est que sous l'effet d'une idéologie qui nous vient principalement des États-Unis, nous avions une conception de la transparence qui est née au XVIIIe siècle avec les Lumières, avec la Révolution, et qui visait à rendre transparent le pouvoir pour éviter que, à l'abri du secret, ne se déploie l'arbitraire, mais qui, concomitamment, a permis d'inventer la vie privée. La vie privée, c'est une invention qui est contemporaine des débuts de la transparence, c'est-à-dire le droit de chacun des individus à ce que ses goûts, ses préférences, sa vie sociale, sa vie amoureuse, sa vie sexuelle relèvent de sa seule souveraineté. Et puis, nous est revenue récemment une culture qui est d'une autre nature, qui nous vient sans doute des racines puritaines au sens vraiment historique du terme des États-Unis, et qui veut que chacun doive être nu devant Dieu et devant ses semblables. Un certain nombre de patrons des grandes entreprises technologiques disent, au fond, la vie privée aura été une parenthèse de l'histoire de l'humanité. Si vous avez des choses que vous ne voulez pas rendre publiques, c'est que vous avez quelque chose à caché. Et donc on entre dans une ère du soupçon qui veut que tout ce qui n'est pas public est suspect. Or, cette idéologie est incroyablement servie par une puissance phénoménale des outils technologiques qui sont à notre disposition et qui ne cessent de nous saisir de différentes manières et de traiter les données qu'ils recueillent sur nous sans forcément notre assentiment. Songez juste, pour le comprendre, que chaque utilisateur de Facebook, ce réseau social, génère 98, en moyenne, 98 données personnelles sur lui, dont Facebook dispose, ce que vous mangez, votre religion, votre statut matrimonial. Et donc, la rencontre de ces deux éléments, le premier qui est permissif, il faut que tout le monde soit transparent, et l'autre qui est une technologie, met en danger des piliers essentiels de notre vie commune.
Alors, cette vie privée qui est à raisonner par l'industrie, par le commerce, la vie intime. Pourquoi faudrait-il considérer qu'elle est si importante à maintenir et à préserver sur le plan, j'allais dire presque anthropologique
Parce qu'elle est essentielle à la constitution de nos libertés. Je vous donne un exemple concret pour comprendre ce que je veux dire. On a des montres connectées désormais. Ces montres connectées vous permettent de suivre vos constantes de santé. Très bien, un grand bénéfice. Ça va peut-être vous éviter un AVC, un accident cardiaque. Mais d'un autre côté, vous ne savez pas où ces données vont exactement. Elles vont être à la disposition de votre assureur, de votre employeur. Et quel usage il en fera ? Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans un monde du contrôle social généralisé dans lequel chacun saura à tout instant qui vous êtes, ce que vous faites, et pas forcément en votre faveur? Je vous donne un autre exemple parce qu'il est peut-être plus parlant encore. Des assureurs, je vous signale qu'un assureur aujourd'hui donne aux États-Unis des montres connectées à ses assurés pour inciter à mieux les connaître. Un assureur aujourd'hui met un capteur dans votre automobile en vous disant, ce qui est très positif, si vous êtes un bon conducteur, vous allez, on va améliorer votre police d'assurance. Et si vous dites, j'ai pas envie que vous sachiez ce que je fais toute la journée, j'ai pas envie de cette discipline.
Ça devient suspect.
Oui, il va vous dire, ah bon, mais donc si vous ne voulez pas de ce capteur, c'est que vous êtes un mauvais conducteur. Et il y a toute une série d'effets en chaîne qu'on décrit, et qui sont d'autant plus dangereux qu'ils sont inconscients. Par exemple, l'assurance fonctionne sur un certain degré de mutualisation. Il y a un voile d'ignorance qui permet à l'assurance de fonctionner, qui fait que le riche paye pour le pauvre, en bonne santé pour le malade. Si tout à coup on a un profilage exact, si vous êtes parfaitement transparent pour votre assureur, cette mutualisation ne fonctionnera plus. Donc il y a un danger qui est un danger pour nos libertés, mais qui est un danger aussi pour l'équilibre de nos sociétés.
Mais alors, ce qui est quand même le plus extraordinaire peut-être, c'est que nous-mêmes, si je puis dire, qui alimentons ces données, puisque sur Facebook notamment et sur d'autres réseaux, on donne volontairement, on se met en scène sans qu'on nous demande même ces informations. Donc le problème est peut-être dans notre tête avant d'être dans
le réseau. C'est même la raison principale de ce livre, c'est qu'en effet, quel est le moteur propulsif de cette évolution technologique dont certains pensent qu'elle nous conduit vers un totalitarisme doux. Pourquoi doux? Parce que c'est pas l'effet d'une dictature. La société, la politique n'est pas totalitaire. On n'est pas les victimes de Benito Facebook ou de Adolphe Google. Non, on est les victimes de nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous entrons dans cette mécanique? D'abord parce qu'elle a d'énormes bienfaits. Et donc on voit les bienfaits, on voit pas forcément les effets négatifs. Ensuite parce que, évidemment, elle flatte certaines de nos faiblesses. Notre égotisme, notre narcissisme, notre exhibitionnisme trouvent là à s'exprimer parce que nos messages, nos photos, nos avis sont mis sur la place publique. Et puis enfin, parce qu'il y a sans doute une grande ignorance des effets de ce numérique. C'est l'objet principal de ce livre, c'est d'essayer de lever cette ignorance un peu, de créer un débat pour qu'au moins nous soyons conscients de ce qui nous arrive.
Voilà, d'où l'importance de ce livre Mortelle Transparence chez Albin Michel, Denis Oliven avec Mathias Chiche-Portiche. Merci beaucoup d'être venu dans
Merci
ce studio.
Vous.
Alors, un temps perturbé, il y aura davantage de soleil sur le sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen, les températures qui iront de 6 à 18 degrés. Cette édition a été réalisée avec Yacine Bouzard à 17h. Il y aura un magazine de la rédaction sur la Pologne. Les électeurs du PiS plébiscitent le bon changement, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Reportage de Marie-Pierre Béraud. Réalisation Anne Hibro, présentation Aurélie Kiffer, le journal de 18h est présenté par Anne Fauquemberg.